I'm a man.
Well, nobody's perfect.
I'm a man.
Le Nobody's Perfect de ce soir qui joue la carte du plus c'est mieux, puisque nous attaquons avec un manga sur lequel ça vaut le coup de s'arrêter.
Oui.
Franck et moi, nous avons lu. Alors, moi, j'ai lu les deux premiers tomes, vous aussi à peu près.
Non, j'ai lu le premier, mais pour préparer l'émission, j'ai quand même lu un peu le début du 2.
Voilà.
Voilà.
Une série en 10 tomes. On est sur le patrimoine, on est sur une œuvre dont Robert Crumb a dit justement Nakasawa, puisque c'est un manga de Keiji Nakasawa, raconte la vérité de façon simple et directe, pleine de véritables sentiments humains, et tous les grands noms sont tous là à dire que on tient une œuvre qui est à part, ou en tout cas qui est à mettre dans les sommets. Oui. Donc à voir si nous on va être d'accord. Il s'agit de Gen aux pieds nus, mais vous pouvez dire Jen, je ne sais pas comment vous vous dites. Vous.
Oui, moi je dis Jen.
Bah, Jen aux pieds nus. Avec ce jeune homme qui s'appelle Gen, donc, avec ses parents Nakaoka et Kimie, il a un frère Koji qui est à l'usine, il y a Eiko, il y a son petit frère Shinji et il y a Akira qui est à la campagne. Sauf qu'il faut dire que nous sommes en 1945 quand débute le premier tome au Japon et plus précisément à Hiroshima.
À Hiroshima et avant la bombe.
Et avant la bombe, bien sûr. Bien sûr, puisque nous sommes à ce moment-là, nous sommes au printemps 45, et d'ailleurs, tout le premier tome est passionnant, puisque après, à partir du tome 2 jusqu'au tome 10, ça va être les lendemains, et puis les mois et les années, puisqu'on le voit devenir adolescent, qui vont suivre, évidemment, l'explosion de la bombe à Hiroshima et à Nagasaki. Mais là, on voit déjà ce qui est assez passionnant, je trouve, un tome... chronique de guerre.
Oui.
Chronique d'un pays en état de guerre. Et entre autres, les bombardements. Je vais m'arrêter un peu là-dessus, mais j'ai déjà envie de recueillir votre avis sur ce premier tome, Franck.
Ah bah moi, j'ai adoré. Hein. Du coup, moi, depuis que je suis à la librairie, j'en entends parler. Ça s'appelait Gen d'Hiroshima avant, quand il était dans l'autre maison d'édition.
Oui, parce que c'est pas une première.
Non,
il
c'est une reprise.
Disponible, hein. En français,
c'est une reprise aux éditions Tripod, qui n'est pas forcément une édition de BD déjà. Donc, pour dire qu'ils ont été chercher quand même quelque chose dans le patrimoine. Et du coup, forcément, quand c'est revenu, du coup, je me disais, c'est peut-être le moment de y aller. Quoi. Et il y avait toutes les composantes pour moi pour adorer ce manga.
Et la chronique de ce pays en guerre, hein, qu'est-ce qui vous a marqué le plus, vous ?
Eh ben, en fait, moi, ce que j'aime voir, c'est comment ça se passait. En fait, on a toujours l'image du perdant comme en fait totalitaire. Tout le monde allait dans le même sens. Tout le monde était contre. Voulait tuer les Américains. Enfin voilà, tout ça quoi. Et en fait, pas du tout. On voit dans ce tome que le père était plutôt pacifiste.
Alors, voilà quoi. Pas du tout. C'est beaucoup. Hein. Il faut dire quand même que le Japon à l'époque, c'était l'autoritarisme militaire. Les Japonais étaient farouchement patriotiques. Oui. C'était une société raciste. Ça l'est toujours en partie, mais
fermé
c'était une société
aussi
raciste.
Fermée.
Alors un peu moins fermée depuis la fin du 19e siècle, mais soumise à l'empereur, considéré comme une divinité. Il faut entendre le maître d'école qui dit « Le Japon est le pays des dieux, le vent divin nous protège et balayera tous nos ennemis. Le Japon va gagner cette guerre. Sa majesté l'empereur est le dieu du Japon et vous êtes les enfants de l'empereur. Vous devez devenir des Japonais forts et si vous recevez un ordre de la part de sa majesté divine, soyez prêts à partir où il vous dira et à lui sacrifier votre vie. D'accord ?» Et les enfants dans la classe disent tous d'accord. Donc on est quand même sur une société très très vraiment verticale de façon assez terrible. Alors là où vous avez raison, c'est que le jeune Gen lui se retrouve dans une sorte d'injonction contradictoire parce qu'il doit à la fois respecter le père et l'empereur, ce qui est un peu la même chose, c'est-à-dire que ça descend du haut, sauf que le père et l'empereur ne disent pas tout à fait la même chose, parce que le père en effet est un pacifiste. Il faut voir ce qu'ils reçoivent tous dans la
tronche
à cause de ça. C'est terrible, puisque on a une société d'une cruauté, d'une petitesse.
Oui, et puis lui, Jen, il prend ça dans la figure, donc ben, il a tous les tracas qui sont dus à cette période, hein, c'est-à-dire que il faut trouver de quoi manger, il faut trouver aussi garder, peut-être gagner de l'argent, et lui, il fait ça, il voit, on a sa vision, et il le fait avec malice, donc il essaye toujours d'amener un côté aussi, voilà, de son âge, où, voilà, où ça doit être... c'est lourd, mais il le fait passer quand même avec humour, quelquefois,
oui.
Quelquefois,
oui. Et là, vous avez raison, il faut vraiment insister. C'est un livre aussi de la fin, sur oui. la fin. Oui. Dès le départ, il y a toute une scène très manga autour d'une patate. Il reste une patate. Alors, en même temps, donc voilà, on est vraiment sur le côté, voilà, une patate où il y a la maman qui est enceinte, des frères et sœurs et le père qui n'est pas là, qui va manger la pomme de terre. Et en même temps, il y a un esprit très manga, ce qui n'est pas le problème, puisque c'est tout l'attrait de ce texte, c'est justement d'être hyper codifié, en même temps tout nous dire sur l'époque, avec une sorte de pathos édifiant, prends cette pomme de terre, ça sera pour le bébé dans ton ventre, hein, littéralement, c'est ce qu'on... Et tandis qu'il y a des torgnoles que les deux frères reçoivent, et alors là, on a vraiment un côté guignolesque, très oui. manga, et on voit vraiment comme la nourriture est la préoccupation majeure. Toutefois, c'est un album où il y a, comme souvent, les deux tomes là que j'ai pu lire, des sanglots, des itérations, répétitions de déclarations d'amour, de respect à la ouais. mère, au frère, à la sœur, à la mémoire du père. Mais en même temps, la violence est frontale. Aucun sujet n'est éludé. Donc, il faut accepter cette règle du jeu, hein, de quelque chose de, comme ça, assez codifié. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, je pense qu'on a tout dit, mais
alors,
c'est hyper...
Moi, non, mais je vais continuer un petit peu. Mais
non, mais je trouve que de voir ça, et puis comme moi, ce qui m'intéressait, c'est le pendant, le avant, le pendant et le après. La seule petite chose, je trouve, c'est que sur ce tome-là, qui à l'époque devait peut-être faire un ou deux, ça va vite. Le avant, je trouve qu'il passe vite, quoi. Parce qu'à la fin de ce premier tome, en fait, la bombe arrive et voilà, quoi.
Exactement. Donc, on commence à avoir une sorte de montage alterné. Alors, tout passe par les yeux de Gaine. On le voit dès la couverture. Hein. Ce sont les yeux de Gaine baignés de larmes.
Ouais.
Et ces yeux baignés de larmes, c'est par ses yeux qu'on voit tout. D'ailleurs, les yeux sont baignés de larmes, non pas à cause des Américains, mais on le voit dans la... C'est à la page 25 ou je ne sais plus combien. En fait, on voit que si... Non, mais il n'est pas numéroté de le tome 1, d'ailleurs.
Non.
La zone. Ça, c'est scandaleux.
Scandaleux.
Et donc, le tome 1 n'est pas numéroté, mais on voit que la couverture vient d'un dessin où ses larmes sont à cause de voisins, du... voilà. Donc, sont à cause de la société japonaise et pas encore des Américains.
Non.
Il aura le temps de pleurer à cause des Américains.
Non, parce que,
après,
oui, effectivement, dans ce premier, il souffre beaucoup, en fait, de ses concitoyens, des concitoyens, de ces personnes, de ces voisins, de ces genres de gardes qui surveillent tout. Et même dans la douleur, en fait, même quand la bombe explose, en fait, ben ça ressort. Et lui, il est prêt, il serait prêt à aider tout le monde, sauf qu'il voit qu'à côté, personne ne va l'aider, c'est chacun pour ça.
Toutes les figures d'autorité sont absolument horribles.
Ouais. Ah, oui.
Ça va même jusqu'à de ce qu'on peut appeler des tentatives de viol. Enfin, oui, on est sur de violences sexuelles sur la sœur à l'école.
Oui.
Enfin, vraiment des choses de cet ordre. Hein. C'est vraiment terrible. Je ne sais plus ce qu'on était en train de dire sur les yeux de Gaine.
Qui pleurait.
Que vous aviez raison, il pleure et on voit tout par ses yeux. À part dans le premier tome où il y a un montage alterné, on commence à voir l'avion qui se prépare avec Enola Gay. On commence à comprendre d'où part cet avion. On commence. Alors peu à peu, voilà, on est mis au courant que quelque chose d'inexorable va arriver. Qu'eux ne sont pas au courant et que c'est terrible à dire, alors qu'ils sont en train de vivre une situation absolument horrible, eh ben ils auront mangé leur pain blanc. C'est-à-dire qu'à partir de la fin de ce tome et dans le tome 2 dont je vais vous parler dans un instant, c'est encore plus terrible. Voilà, je sais que vous vous êtes très très occupé, très pressé. Je vais vous remercier d'avoir participé à cette émission.
Merci.
On écoute un petit peu du quatuor à cordes Mishima Philippe Glass. Vous avez un extrait, Benoît, je crois.
Tout à fait.
Voilà, on l'écoute et je vous remercie, Franck. Merci, Solène.
Merci. Merci.
Ok. C'est bon tu... On écoutait Philippe Glass sur Radio Balistique, la musique qu'il a composée pour le film Mishima. D'ailleurs, on va parler de Mishima, puisque Mishima a vécu aussi les bombardements du printemps 45. Alors, évidemment, c'est en août qu'ont eu lieu la bombe sur Nagasaki et Hiroshima. Mais, il ne faut pas oublier que les bombardements sur Tokyo, entre autres, sont considérés comme les bombardements les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on est sur à peu près 100 000 morts. Je parle là, attendez, hein, des bombardements de mars 1945. Donc je parle vraiment d'une 9-10 mars 1945. 1700 bombes incendiaires lâchées sur Tokyo, 100 000 morts, sachant que le nombre de morts que Fatman, c'est le nom de la bombe qui explosera à Nagasaki, était de 70 000, c'est pour vous dire. Donc c'est plus qu'à Londres, c'est plus qu'à Dresde, et pourtant les bombardements de Dresde ont été épouvantables.
Ils ont rasé la ville, ouais.
Ils ont rasé la ville, exactement. Et donc, Yukio Mishima, dans Confession d'un masque, qui est un livre qui se passe aussi durant la guerre et qui fait état aussi de ce pays en état de guerre, nous parle de ça, nous dit comment il survit, il décrit les ravages des bombardements. Et dans le tome 1 du Game au pied nu de Kenji Nakazawa, on voit aussi la crainte constante des bombardements. On est toujours entre deux bombes. C'est une sorte de printemps où il pleut des bombes. Pourtant, les cerisiers vont fleurir. On sait comme c'est important. On est d'ailleurs dans cette période-là où les cerisiers fleurissent au Japon, et que c'est toujours quelque chose d'important. Mais personne à Tokyo n'avait le loisir de sortir admirer les fleurs. Ça, on le voit page 166 de Confession d'un masque. Le vif éclat de ce printemps se teinte d'ailleurs d'une sorte de malveillance. C'était, écrit Mishima, un véritable incendie de couleurs. Quand surviendra le bombardement de la nuit du 24 mai, qui est aussi violent que ceux de mars, Mishima a ces quelques mots. Caché dans l'une des innombrables galeries, nous regardions Tokyo incendié d'écarlate. Parfois, quand une explosion se produisait, lançant des reflets dans l'espace, on apercevait entre les nuages une trouée de ciel incroyablement bleu, comme en plein midi, apparition fugitive au cœur de la nuit d'une portion d'azur céleste. Qu'il est beau, mon grand bombardement, dit l'enfant de la guerre. Et page suivante, Mishima évidemment mobilisé comme l'un des frères de notre héros Gen est mobilisé pour travailler à l'usine. Tous les étudiants le sont. À l'usine d'armement, hein, évidemment. Ce sont les usines d'aviation. Il faut lire chez Mishima la description précise de l'entreprise de mort qui consiste à construire des avions entre deux alertes de bombardement. Avions destinés à l'explosion de kamikazes, donc une véritable industrie du suicide. On retrouve cette même peur des bombardements donc pour le petit Gen, pour sa famille. Et le bruit écœurant et lourd des avions qui survolent la ville. On pense évidemment à certaines situations actuelles où les États-Unis, dans la volonté de ne pas mettre de troupes au sol, espéraient tuer la vie économique et rendre la vie impraticable dans le pays, et donc la reddition d'un pays, ce qui ne sera pas le cas. Il faudra attendre août. Et on sait comment, et d'ailleurs on va tout de suite l'aborder, cet aspect, avec le tome 2, les premiers effets de la bombe. La bombe vient d'exploser sur Hiroshima, et c'est là qu'il faut parler justement de ce que Lyoko Sekiguchi appelle une sorte de catatoponymie. Alors avec ce mot un peu, on pourrait appeler ça le paradoxe de Pompéi. C'est-à-dire qu'il y a comment les catastrophes abîment le nom des villes. Par exemple, si je vous dis Beyrouth, maintenant plus personne ne voit la ville paradisiaque que c'était au Liban. Hein, la première image, si je vous dis Beyrouth, ne ressemble pas du tout à un paradis. Et si je vous dis des villes comme Guernica, Ypres, Tchernobyl, Fukushima, eh bien sans la destruction presque totale de chacune de ces villes, on ne connaîtrait pas ces villes, normalement. C'est-à-dire que si elles avaient pu préserver leur anonymat, c'est en tout cas, elles seraient restées debout. C'est peut-être aussi ce qui serait arrivé à Hiroshima et Nagasaki, qui pour nous n'étaient pas, sont des villes moyennes qu'on citait peu avant, je pense, 1945, parce qu'on avait, à part Tokyo et Kyoto, je doute qu'on avait une connaissance parfaite de la carte du Japon. Donc j'aime beaucoup cette idée d'un syndrome, d'une sorte de paradoxe de Pompéi, hein, c'est-à-dire comment une ville comme ça va se retrouver abîmée, mais en même temps va devenir le symbole de ce qu'on sait pour Hiroshima et Nagasaki. On va faire un petit point data. Enola Gay sur Hiroshima, c'est 150 000 morts et 80 000 blessés. Là, je parle le 6 août et les deux semaines qui suivent. Hein, puisque on le sait, les effets de la bombe ont continué bien, bien des années et sur plusieurs générations. Sachant que Hiroshima, c'est 350 000 habitants et que 92% de la ville a été détruite. Le 9 août, Fat Man sur Nagasaki, c'est 70 000 morts pour 74 000 blessés sur 250 000 habitants. Pareil, c'est le 9 août et les deux semaines qui suivent. Alors, ce que je viens de faire, heureusement, le manga l'évite, c'est-à-dire ce ton un petit peu de prof d'histoire géo avec des données chiffrées à prendre en note, s'il vous plaît, messieurs, j'espère que ça a été fait. Je ramasserai une copie à la fin de Lucas, par exemple. Enola Gay, Hiroshima, combien de morts? Je viens de le dire. Personne n'écoute. Bon, le manga évite en tout cas la lourdeur, la malourdeur de prof d'histoire géo. Tout passe par le filtre de Gen, par le regard du petit garçon. Et même, il y a même une double page, page 24-25, qui donne d'ailleurs la couverture de « Ah bah j'ai pas amené le... » Si, le tome 2, je l'ai amené. Et c'est une carte, mais c'est même pas vraiment une carte, puisque pour nous éviter d'avoir ce côté un petit peu prof avec des cartes, en fait, c'est un panorama de la ville avec les principaux endroits détruits, hein, vu par le regard effrayé, circonspect, rebelle du petit garçon. Et ça ne passe que comme ça tout. Qui nous est donné à comprendre et à apprendre aussi de l'événement passe de cette façon très sensible et avec un vrai souci de la fiction, de la narration. J'entends par fiction, évidemment, que tous les faits sont vrais, à part certainement Gen et l'histoire qui le vit. Où il survit. Alors, le tome 2 est un objet tout simplement incroyable. D'ailleurs, si vous voulez le feuilleter, le trait, le découpage, la caractérisation des personnages sont très manga, je le rappelle. Et c'est Franck qui me le disait, un manga assez classique, tel qu'on pouvait le trouver chez Osamu Tezuka et pourquoi pas aussi chez Yoshiharu Suge, le dessinateur nous montre tout et de manière frontale des premiers effets de la bombe par contre. Alors, quand je vous dis tout, j'ai commencé à faire une liste, mais au bout d'un moment je me suis arrêté. Rien que dans le tome 2, les incendies, les cadavres alignés sur les bords de route et les soldats qui les entassent dans des remorques, cédant de longues gaffes comme des perches d'ancrage, vous voyez ? Ouais. Pour attirer les cadavres vers eux. Les chants qui ne disent que la mort, comme page 45, je danse jusqu'à la fête d'Obun. Après la fête, je ne serai plus là. Obun, c'est la fête des morts qui a lieu chaque mois d'août. Les gamins en train de mourir noyés, brûlés, dans la rivière que l'explosion a rendue bouillante. Et les gosses, c'est absurde, continuent de chanter. Cette même rivière où Gen voudra boire avant de s'apercevoir qu'elle charrie d'innombrables corps, tous sur le dos, l'abdomen et la face monstrueusement gonflés, abdomen qui, sous l'effet des gaz et des fluides, explose. Et évidemment, ce qu'on a pu voir dans la... Je dis évidemment parce que c'est l'une des scènes les plus terribles. C'est une scène aussi qu'on a pu voir dans la série Tchernobyl. C'est quand la peau fond littéralement sur les blessés. Hein. C'est quand les blessés fondent comme un... Je ne saurais décrire sans être trivial, mais c'est vraiment, vraiment horrible. Et ils réclament de l'eau, quoi. Et ils sont en train de littéralement fondre la peau. L'épiderme descend de leur corps. On se croirait à ce moment-là dans un manga horrifique de Junji Ito, ce maître de la J-Horror qui excelle à rendre les métamorphoses dans des dessins qui sont inconfortables. Et on comprend d'ailleurs, quand on voit cette scène, quand on voit ce que ça a été, évidemment, le traumatisme, on comprend tout ce que, à partir de Hiroshima, tout ce que la littérature, le cinéma et le manga fantastique, d'horreur, d'épouvante, va prendre comme place déterminante dans la culture japonaise. Ça, en fait, ça ne parle que de ça. Ça ne parle, y compris Godzilla, évidemment, on le sait, ouais. Ça ne parle que de Hiroshima et de Nagasaki. Je passe sur l'invasion de vers, puis de mouches, sur Gen qui devient chauve avec ses mèches brunes comme ça qui chutent partout entières en très peu de temps. Voilà, on n'ira pas plus loin. Kenji Nakazawa, par les yeux de Gen, voit tout cela et plus encore, et il va d'ailleurs plus loin. Un mot quand même de Monsieur Pak. C'est qui Monsieur Pak ? C'est le voisin de la famille de Gen. Il est coréen et japonais. Je vous le rappelle, société vraiment raciste. Et c'est un véritable déambute à une sorte de racisme national, y compris au début celui du petit garçon. Hein. Et dans le tome 2, on apprend, je l'ignorais, on apprend que les Japonais n'apportèrent aucun soin aux Coréens blessés et même ne procédaient pas à la levée des dépouilles coréennes. Voilà, donc il y avait aligné, on prenait les cadavres japonais, mais on laissait sur le trottoir, sur le bord de route, les cadavres coréens. C'est glaçant. Donc dans la seconde partie de ce tome, l'Odyssée apocalyptique prend une forme très Dickens, roman d'apprentissage victorien, avec combat contre des bandes d'orphelins à la rue, ou alors séjour chez des cousins avec à la campagne, parce qu'on essaye de, ils essayent, la mère et le fils essayent de se réfugier à la campagne, séjour chez des cousins avec une méchante grand-mère et des enfants odieux. Ce que je garderai de cette lecture. Déjà, je la conseille vraiment à des lecteurs avisés. Il ne faut pas la mettre entre toutes les mains comme ça, ou alors il faut bosser un petit peu avant. Ce que je vais garder, ce n'est pas une image, c'est un son. Il y a un moment, Gen, il se refuse à enterrer les os de son père, son frère et sa sœur. Et il les dépose dans un seau, décidé à les emporter avec lui à la campagne. Et tandis qu'il avance, le seau en zinc est accroché à la charrette à bras et le seau fait un bruit macabre parce que ce sont les os qui cognent, qui sonnent. Et Gen dit « Les os font du bruit, comme si papa et les autres pleuraient. » Et c'est page 211 et je me suis demandé s'il fallait avoir connu un épisode comme celui-là pour rendre pareil détail. Et ce détail et beaucoup d'autres, vous les retrouverez dans les premiers tomes qui sont sortis. Je crois qu'il y en a déjà 4 qui sont sortis aux éditions du Tripode. Gen au pied nu, Kenji Nakasawa. J'ai pas de mention de traducteur, mais c'est vraiment bien fichu. C'est conseillé dans la mesure où là, on tient une BD de patrimoine. Emiliano, je me tourne vers vous. Allez introduire le livre suivant, dont je parlerai en quelques minutes. Je vous ai demandé une petite chanson autour de la mine.
Oui, parce que vous m'aviez demandé de trouver des chansons autour de la mine, justement. Eh bien, c'est Lee Dorsey qui, en 1966, Lee Dorsey, chanteur soul de la Nouvelle-Orléans, chante un morceau qui s'appelle « Working in a Coal Mine ». Voilà, je travaille à la mine et je descends.
Working in a coal mine, going down. Working in a coal mine, about to slip down. Working in a coal mine, going down. Working in a coal mine, about to slip down.
5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on?
Daddy, working in a coal mine, going down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down.
Working
in a coal mine, going down.
Working
in a coal mine, whoop, about to slip down.
'Cause I make a little money, hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun.
Too tired for having, I'm just working in a coal mine, going down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down.
Working
in a coal mine, going down.
Working
in a coal mine, whoop, about to slip down.
Lord, I'm so tired. How long can this go on?
Daddy, working in a coal mine, going down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down.
Working
in a coal mine, going down.
Working
in a coal mine, whoop, about to slip down.
5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on?
Daddy, working in a coal mine, going down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down.
Working
in a coal mine, going down.
Working
in a coal mine, whoop, about to slip down.
'Cause I make a little money hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around,
I'm too tired for having fun.
Too tired for heaven. I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to flip down.
Working
in a coal mine,
going
down, down, down.
Working
in a coal mine, whoop, about to slip down.
Lord, I'm so tired.
Emiliano.
Tellement fatigué, mon Dieu.
Ouais. On écoutait
Lee Dorsey en 1966, Working in the Coal Mine.
Merci. Et donc, ça permet d'introduire la sortie d'un poche amiante, Sébastien Dulude. C'est chez J'ai lu un livre dont j'ai parlé au tout début de la rentrée 2024-2025. Un livre qui m'avait particulièrement plus qui se passe dans la lumière magnifique des poussières toxiques de Québec, puisque c'est une mine d'amiante. On est à l'été 86. C'est une petite ville, Thetford Mines, qui vit au rythme et grâce à la mine Beaver. On va suivre Steve, 9 ans. On est dans les Appalaches, vous l'aurez compris, c'est l'amiante, ce minerai inenflammable et imputrescible qui est au centre des vies. Quand je dis que la ville est au rythme de la mine, je pense à l'explosion de 16 heures, parce que chaque jour à 4 heures, boum, horloge effrayante, impassible, avec son coucou explosif, la mine, cathédrale tellurique, sonne l'heure de toutes les vies qu'elle nourrit. Et certaines vitres, d'ailleurs, restent fêlées à l'année, vu qu'à chaque jour, il y a cette explosion. Alors, voilà le paysage, l'Amérique du Nord des années 80, ces conifères, ces mines à ciel ouvert, ces BMX qui rutilent. Les bicycles sont à deux gosses, Charles Ellie et Steve. C'est Steve qui raconte en deux parties avec une ellipse culottée de 5 ans au milieu. C'est une histoire à hauteur d'enfant, puis d'adolescent. C'est donc une histoire violente, insolite, chaleureuse, avec des peurs irrationnelles et des sentiments chauffés à blanc. Attention, il y a un panneau, fluides inflammables, et dans les terres des souvenirs, c'est partout du poison. J'ajoute que Amiante est d'une facture énergique, un style qui sinue, lignes, courbes et couleurs d'après nature. Un mouvement agite la page, et comme chez le peintre Soutine, la sinuosité déforme l'inclinaison des montagnes. Les sapins vacillent, la maison gonfle, menaçante. Comme pour Chaim Soutine, ce bouleversement du paysage traduit la douleur, l'angoisse, vous savez, la douleur, l'angoisse, vous savez, ces moments où être un enfant est sûrement la pire chose quand on est un enfant. Donc, je rappelle les références de ce poche, Benoît, Amiante, Sébastien Dulude. Vous le trouvez maintenant chez J'ai lu.